good birthday. Come together
right now. Over me. C'est moins 3 degrés sur Québec avec le refroidissement éolien. C'est une température ressentie de moins 9. Généralement nuageux pour aujourd'hui, de la neige ou de la pluie. Maximum de plus 3 degrés. Ce soir, cette nuit, neige intermittente, 2 à 4 cm annoncés. Minimum de moins 9 degrés. Jeudi, faible neige intermittente qui devrait cesser en matinée. On parle de 2 cm pour ce qui est de demain, avec un minimum de moins 11 en soirée. Vendredi, une belle journée, alternance de soleil et nuages avec un maximum de plus 1. Et pour ce qui est du week-end, la neige va fondre samedi, donc ce sera de la pluie avec un maximum de plus 6 degrés. Et dimanche, ce serait la plus belle journée de la fin de semaine. Ce serait ensoleillé avec un maximum de 6 degrés. Pour nous joindre en studio, c'est le 418-971-1021. 418-971-1021. S'il se passe quoi que ce soit sur la route, merci de nous texter.
Il se passe rien sur la route cette semaine. J'ai jamais rien à vous dire.
Dis de même.
Ce qui est une bonne nouvelle.
C'est invitant.
C'est une excellente nouvelle.
628.
Les news 1021.
Maxime Larouche,
oui.
Direct de la salle des nouvelles de Leclerc Communication. Tu nous apprends quoi ce matin?
Un incendie de véhicule est survenu hier après-midi dans un stationnement à étage de la rue Saint-Joachim dans le secteur de la Haute-Ville de Québec. Les pompiers et les policiers qui sont rapidement intervenus sur place. Les flammes qui ont été maîtrisées sans propagation, structure environnante, personne qui a été blessée. On pourrait parler d'un incendie là, de nature criminelle, fait qu'il y a une enquête ouverte par le SPVQ. À ajouter à la liste des nombreux incendies de véhicules, ça en fait pas mal ces temps-ci. On a des nouvelles de l'accident mortel survenu dans la nuit du 26 février sur l'autoroute 20 à Lévis. On nous dit que ça aurait été causé par des troubles cognitifs chez le conducteur impliqué. C'est l'hypothèse privilégiée par la SQ qui est rapportée par Le Soleil. Rappelons là, que l'homme s'est engagé à contresens avant d'entrer en collision frontale avec une ambulance vers 1h du matin, hauteur Taniata. Le conducteur qui est décédé sur le coup. Les deux ambulanciers à bord du véhicule d'urgence qui ont subi des blessures importantes. Leur état qui s'est stabilisé, là, on ne craint plus pour leur vie. Et les enquêteurs donc qui ont écarté la thèse d'un geste volontaire qui était vraiment ce qui était privilégié au départ. La CNESST d'ailleurs qui précise que l'événement est considéré comme un accident de la route et non comme un accident de travail. Fait que c'est la SAAC qui va être responsable du suivi et de l'indemnisation. L'animateur de Radio X, Carl Boissonneau, a provoqué la collision avec l'autobus sur lequel il a asséné un coup de poing en décembre 2024, selon une décision du tribunal administratif du travail cité par Le Soleil. Le TAT, qui devait trancher sur l'attribution des coûts des prestations liées à la lésion professionnelle du chauffeur, qui a reçu un diagnostic de trouble anxieux aigu. La décision qui indique notamment que l'automobiliste, qui est Boissonneau, invective le chauffeur en le traitant de cave et de mange une marde. Il menace aussi l'employé en lui disant « Je vais parler de toi à la radio, mon calice ». À noter que Carl Boissonneau fait face à une accusation criminelle de méfait à l'égard d'un bien d'une valeur ne dépassant pas 5 000 $. On parle de la fenêtre de bus du RTC. Sa prochaine comparution qui est prévue le 27 mars prochain. Faut dire qu'il demeure innocent jusqu'à preuve du contraire au criminel malgré la décision du tribunal administratif du travail. Devant le TAT, la RTC qui devait simplement prouver que Carl Boissonneau était majoritairement impliqué dans les circonstances de la survenance de la lésion, c'est-à-dire dans une proportion supérieure à 50%, alors qu'au criminel, la couronne va devoir prouver hors de tout doute raisonnable que l'infraction a été commise.
C'est tough, Jeff. Moi, c'est mon ancien collègue,
vraiment.
Carl. C'est mon mécanicien aussi. C'est un gars que je respecte énormément. Je regardais là, ce qui s'est dit au tribunal administratif du travail, puis Max l'a bien dit, là, tant aussi longtemps qu'il n'a pas passé devant un juge de la cour criminelle, puis que le juge ne l'a pas déclaré coupable, il est innocent jusqu'à preuve du contraire. Mais si tout ça c'est vrai, là, c'est une accumulation de choses qui ont fait en sorte qu'il a explosé de cette façon-là. Mais je peux pas défendre cette attitude-là si vraiment c'est ce qu'il a fait, là. Ça a comme pas de bon sens. C'est mon ancien collègue. C'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. On se parlait encore la semaine dernière. Mais de lire ça, je trouve ça extrêmement triste. Puis je pense qu'on est tous susceptibles d'avoir des moments de colère, là. T'sais, peu importe la job qu'on fait, des fois, on est en sacrament. Puis on fait des affaires que normalement, on ferait pas. J'espère juste qu'il saura s'expliquer devant le juge, qu'on sache exactement ce qui s'est passé. Parce que si vraiment il a mis son camion, c'est un gros, un beau gros camion qui est en plus, devant l'autobus, puis il a crissé les freins, C'est, il aurait pu tuer le chauffeur d'autobus.
Oui.
Il aurait pu
blesser énormément de passagers à l'intérieur.
Il n'y avait pas de passagers.
Ah, c'est vrai, il n'y avait pas de passagers. Vous avez raison.
Il aurait pu tuer le chauffeur d'autobus. Il aurait pu, je sais pas, moi, le chauffeur d'autobus, il ne voit pas les lumières allumées, rentre dans le camion se ramasse à la voie de gauche ou à la voie de droite.
Ben oui.
Merci, bonsoir, on implique d'autres mondes. J'ai juste hâte de savoir qu'est-ce qui s'est réellement passé. Puis je souhaite à la victime dans ce dossier-là de se remettre de cet événement-là. Parce que lui, de la façon dont il raconte, là, ça a été un moment assez traumatisant.
Oui, exactement. Il s'est senti vraiment agressé. Puis à savoir, ça reste toujours des actes présumés. Mais si jamais ces actes-là venaient être validés par un juge, ben j'espère qu'il va avoir le courage de s'excuser pour ce qu'il a fait.
Bruno Marchand annoncera aujourd'hui la version finale du plan pour le secteur Saint-Roch qui va inclure un investissement de 200 000 $ pour améliorer l'éclairage urbain et renforcer le sentiment de sécurité en basse ville. C'est ce qu'a appris le Journal de Québec à quelques heures de l'annonce. La ville qui veut améliorer l'éclairage du stationnement de l'îlot Fleury et des rues Sainte-Marguerite, Xiane, Saint-François-Est, Duroy et Caron. Après les 200 000 injectés cette année, d'autres sommes suivront l'année prochaine. Les Québécois qui sont déjà prêts à oublier les déboires du Parti libéral du Québec sous Pablo Rodriguez, le PLQ qui gagne 4 points de pourcentage dans un nouveau sondage léger, le journal TVA, pour se retrouver à un seul point du Parti québécois qui est en baisse, lui, d'un point. Le Parti conservateur du Québec d'Éric Duhaime ferme le podium à 15%, une hausse d'un point depuis fin janvier. La CAQ qui continue de perdre la vitesse avec une dégringolade de 4 points qui l'amène à 13%. Et finalement, Québec solidaire passe de 7 à 9%. La candidate à la chefferie de la CAQ, Christine Fréchette, voudrait que l'État délaisse la construction et l'entretien des bâtiments scolaires au profit du secteur privé, a appris le bureau parlementaire du journal. Sous sa gouverne, Québec pourrait alors devenir locataire d'infrastructures construites avec cette stratégie-là. Présentement, on dit que bâtir une école primaire, là, ça coûte en moyenne 40 millions. Une école secondaire entre 250 et 300 millions. Et ce que Mme Fréchette aimerait, c'est que les partenaires privés assurent la construction, la propriété et la gestion des actifs immobiliers. Ce qui inclurait l'entretien et les rénovations majeures. Les centres de services scolaires qui deviendraient locataires à long terme avec des possibilités de transfert des bâtiments à la fin des baux. On pourrait parler de signer des ententes de 30 ans, un modèle qui permettrait d'accélérer la construction, de partager les risques avec le privé et d'assurer le maintien des actifs, selon Mme Fréchette.
Jeff, j'écoute cette nouvelle-là que Max nous raconte, là, puis je trouve ça franchement dégueulasse, là. La plupart des gens qui vont bâtir des bâtisses à Québec là, ou qui vont bâtir des maisons vont faire de l'argent avec ça.
Oui.
Sur plusieurs années. T'sais, McDo est construit sur un... On a longtemps pensé que McDo, c'était de la restauration, mais non, McDo, c'était de l'immobilier. Là. On achetait des terrains, on mettait des bâtisses, puis à l'intérieur, il y avait un restaurant qui était intéressant pour la famille, pour les enfants. Mais de voir que Québec pourrait dire « Hey, nous autres, on veut juste être locataires », puis donner de l'argent au privé en disant « ben vous autres, vous allez vous occuper de la bâtisse, vous allez être propriétaire, nous autres, on va vous payer un loyer ». C'est parce que c'est les propriétaires de ces bâtisses-là qui vont s'enrichir et non le gouvernement. Là.
En effet.
C'est un manque de vision de la part d'une femme qui, normalement, a un bon profil économique. Là. Si tu bâtis l'école sur un beau gros terrain, au 10 ans, ça va doubler de valeur. Tu le revends dans 30 ans, le gouvernement du Québec va s'être fait de l'argent avec ça. Mm-hmm. Là, si tu l'entretiens sur le sens du monde puis tu fais ce qu'il y a à faire dessus... Je comprends pas son nouveau modèle.
Ben, c'est de sauver de l'argent à court terme. Québec est en décote. Le Québec est dans une situation budgétaire et en perte à long terme. C'est ça son thinking. C'est le retour à l'équilibre budgétaire, mais ça revient toujours à ce qu'on dit des politiciens. Une vision à courte échéance pour se faire réélire. Tu peux pas perdre cet argent-là sur un horizon de 30 ans pour sauver ta peau présentement.
Parce que c'est cool pour les propriétaires qui vont ériger ces bâtisses-là,
ben oui.
Qui vont dire « Moi, je vais m'occuper de cette bâtisse-là, puis il va avoir une école, puis je vais m'en occuper. » Mais le propriétaire, lui, il va avoir un loyer, va rembourser son hypothèque, puis au bout de 10 ans, si jamais l'école décide d'aller ailleurs, ben sa bâtisse-là va avoir pris de la valeur. Je comprends pas ces gens-là qui ont une vision à court terme. Peut-être que c'est parce que c'est pas leur argent. Il y a peut-être quelque chose.
Ben, c'est sûr qu'il y a ça là-dedans. Puis le propriétaire, en plus, lui, là, contrairement au public, là, inquiète-toi pas qu'ils vont en faire de l'argent louant des locaux puis des gymnases dans l'école.
Alors.
Le premier ministre du Canada, Mark Carney, qui reste assez prudent dans son appui aux frappes américaines en Iran, il admet que le tout semble être contraire au droit international, bien qu'il soutienne avec regret, dit-il, la démarche. S'éloigne un peu de la situation en disant que c'est à d'autres qu'il appartient d'en juger parce qu'il n'est pas juriste et encore moins expert en droit international. Dit que le Canada appelle à une désescalade rapide des hostilités et prêt à aider à atteindre cet objectif-là pendant que les frappes en Iran se poursuivent aujourd'hui. Et pour terminer, toujours dans ce contexte-là, Donald Trump qui affirme que les États-Unis avaient presque tout détruit en Iran lors des premières frappes du conflit, évoque la destruction de capacités militaires iraniennes, notamment dans la marine, l'aviation, les systèmes de défense aérienne. Il soutient que l'Iran s'apprêtait à attaquer en premier et affirme avoir peut-être forcé la main d'Israël pour lancer l'opération militaire. Fait que ça continue de brasser aujourd'hui du côté de l'Iran, évidemment. Qu'on continue à suivre ça.
6h38.
Les sports. Sports.
Les Sharks. Les Sharks de San Jose, ça va être l'équipe préférée de ben du monde dans 2-3 ans avec ce qu'on a vu hier soir. Je dis « on a vu hier soir », mais moi, c'est, je l'ai vu ce matin parce que j'ai regardé les faits saillants ce matin. D'ailleurs, ils sont tout le temps disponibles sur NHL.com. Là, c'est 11-12 minutes à peu près de faits saillants. C'est toujours le fun, mais c'était un match offensif. Pour les gens qui ont regardé ça live à 22h hier, gros match offensif, 12 buts, gros match offensif, 12 buts dans la soirée.
De quoi rester éveillé.
Exact. mais quand même, début de voyage assez compliqué pour le CH. Là, tu sais, ses buts des Sharks, c'était tout croche. La couverture défensive, ça a été tough hier. Fait que c'est ça, défaite de 7-5. Trois mentions d'aide pour Mike Matheson. Deux buts pour Alex Newhook, qui nous manquait puis nous a montré pourquoi hier. Ivan Domidov, Oliver Kapanen et Philippe Dano qui ont aussi marqué. 6 buts accordés sur 27 tirs pour Jakub Dobesch, qui a subi sa première défaite en temps régulier en 11 matchs. Sa dernière défaite en temps régulier qui remontait au 14 décembre contre le Lightning de Tampa Bay. Le Canadien qui va reprendre l'action vendredi 21h du côté d'Anaheim pour le deuxième match de 3 de ce voyage-là. Il y a eu des transactions hier dans la LNH. Ça a bougé deux fois du côté des Preds de Nashville. On a d'abord envoyé l'ancien du Canadien, le gros joueur de centre, Michael McCarron au Wild du Minnesota pour un choix de deuxième ronde. Fait que le Wild qui clairement s'affiche du côté des acheteurs sans surprise. Et même chose pour les Golden Knights de Vegas qui ont transigé avec les Preds pour faire l'acquisition de Cole Smith en retour du défenseur Chris Sedoff et d'un choix de troisième ronde. Je vous rappelle que la date limite des échanges est vendredi, fait que ça risque de bouger pas mal d'ici là. Quoi qu'on sait pas trop où on va se situer, là. Est-ce qu'on va vraiment avoir une grosse année au niveau des transactions à suivre. Pour ce qui est des Remparts de Québec, on reprend l'action ce soir. Les Tigres de Victoriaville qui sont au centre Vidéotron et dans la NFL. Beaucoup de mouvements. Les Cardinals de l'Arizona qui ont informé le corps arrière Kyler Murray qu'il allait être libéré, va devenir agent libre. Mais Seahawks de Seattle qui n'ont pas utilisé le franchise tag sur Kenneth Walker, le MVP du dernier Super Bowl, deviendra aussi agent libre, devrait faire sauter la banque. Les Colts d'Indianapolis de leur côté qui ont placé ce qu'on appelle un transition tag sur Daniel Jones, ce qui nous permet en gros, là, on devrait le garder grâce à ça, mais on peut continuer de négocier. C'est un peu le concept de joueurs avec restriction et sans restriction dans la LNH pour vous donner une idée. Les Bengals de Cincinnati, eux qui n'ont pas mis de franchise tag sur Trey Hendrickson, le joueur défensif qui va devenir agent libre, devrait avoir beaucoup d'intérêt aussi. Et les Jets de New York qui ont appliqué le franchise tag sur Breece Hall qui va devenir en fait dans les running backs les mieux payés de la ligue.
Il est 6h41, on vous souhaite un bon matin. On fait une courte pause et on revient.
Pour nous informer de ce qui se passe dans la